Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Du journal sur RMC de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La ministre de l'Agriculture attendue de pied ferme ce matin au sud de Toulouse pour rencontrer les agriculteurs mobilisés contre les abattages systématiques de troupeaux en cas de dermatose nodulaire. RMC est sur place. Les conséquences en France au lendemain de l'attentat antisémite qui a fait 15 morts en Australie. Vous verrez que la sécurité est renforcée près des lieux de culte en cette période de fête. Et une demande de grâce adressé au président algérien pour lui demander de libérer le journaliste français Christophe Glaize emprisonné en Algérie.
La mobilisation des agriculteurs prend encore de l'ampleur ce matin.
Oui, avec une trentaine de points de blocage désormais recensés, un nouveau depuis hier soir près de Bordeaux et toujours sur l'autoroute A64 qui est fermée sur une centaine de kilomètres entre Tarbes et le Pays Basque et bloquée donc au sud de Toulouse, à Carbonne précisément, au même endroit que lors de la dernière grande crise agricole. C'est là que vous êtes en direct ce matin pour RMC. Cassandre Brault, envoyée spéciale, et c'est là que va se rendre la ministre de l'Agriculture Annie Genevard pour défendre la position du gouvernement qui est d'étendre la vaccination, mais de continuer les abattages. Les agriculteurs que vous rencontrez ce matin, ils vous disent quoi ?
Oui, les agriculteurs n'ont pas beaucoup d'espoir que la visite en Occitanie de Annie Genevard débloque la situation. Les agriculteurs présents ici à Carbonne, comme les syndicats et notamment la coordination rurale et la confédération paysanne, attendent de la ministre qu'elle revienne sur le principe de l'abattage systématique des troupeaux. Ils réclament l'abattage des animaux malades seulement et une large vaccination des 16 millions de bovins français contre la dermatose nodulaire. Parmi ceux qui ont passé la nuit ici, Laurent Abadie, éleveur d'une soixantaine de vaches.
C'est pas une solution d'abattre des troupeaux entiers. Il faut trouver une autre solution. Voilà, donc changement de protocole. Si elle fait des propositions, on va attendre qu'il y ait de l'effet. Et après, on envisagera de partir. Tant qu'il n'y aura pas des actes concrets, on ne bougera pas, ça c'est sûr. Il faut toujours avoir un peu d'espoir. Mais bon, le combat va être compliqué.
Le blocage est toujours bien en place ici sur l'autoroute A64. Aucune voiture ne circule. Les agriculteurs s'organisent, se relayent. De nouveaux chauffages sont arrivés hier soir et des sapins de Noël sont là. Ils l'affirment, ils sont prêts à passer les fêtes de fin d'année ici, s'il le faut.
Il y a cette colère que vous racontez ce matin en direct pour RMC. Cassandre Brault, s'ajoute le calendrier européen, le traité du Mercosur censé être signé cette semaine à Bruxelles, mais le compte n'y est pas, estime le gouvernement français qui demande donc un report des échéances. C'est une information qu'on vous révèle ce matin sur RMC à propos de la traque de Mohamed Amra. Vous vous souvenez de son évasion de prison il y a un an et demi. Deux agents pénitentiaires étaient morts ce jour-là au péage d'Incarville. Mohamed Amra avait été retrouvé 9 mois plus tard en Roumanie grâce à un témoin privilégié qui a aiguillé les enquêteurs. Pierre Bazin du service police-justice à RMC. Vous nous révélez donc cette information. Vous nous dites que ce témoin a livré sous X des informations très importantes sur la localisation notamment de Mohamed Amra.
Oui, lorsque ce témoin majeur se manifeste, cela fait plus de 7 mois que Mohamed Amra est en cavale. Les policiers multiplient les pistes de recherche pour le retrouver en région parisienne, en Espagne, mais aussi en Normandie, sa région natale. Et ce témoin, entendu sous X, vient révéler aux enquêteurs qu'il a vu la mouche dans les rues de Rouen en train de discuter avec un autre homme à l'entrée d'un kebab. Cela confirme l'important travail de téléphonie mené jusque-là par les enquêteurs. Mohamed Amra est en cavale, mais jamais loin de chez lui. D'après ce témoin, quelques jours avant sa déposition, Amra était même à Évreux pour un échange de drogue. Selon nos informations, ce témoin clé est un proche, voire un très proche d'Amra, puisqu'on nous explique qu'il connaît l'environnement personnel de la mouche, les compagnes officielles et les officieuses du fugitif. L'homme, c'est même le surnom que Mohamed Amra donne à son jeune fils. Plusieurs sources proches de l'enquête nous précisent que ce témoin a été en mesure de lister les noms de potentiels complices de la mouche. 4 d'entre eux sont aujourd'hui mis en examen. Et au regard de ces éléments, l'audition de ce proche d'Amra s'est faite sous X, une procédure rare pour protéger un informateur qui prend de très gros risques en témoignant.
Information, révélation, RMC signé Pierre Bazin ce matin. Pas cours, il n'y a pas cours ce matin au collège Champollion de Dijon. Pourquoi ? Parce que ce collège a été touché par un incendie sans doute criminel. Durant le week-end, le préfet évoque un possible lien entre cet incendie et le narcotrafic. Le collège se trouve dans le quartier sensible des Grésilles à Dijon avec des dealers tout autour, expliquait une enseignante un petit peu plus tôt ce matin sur RMC. Il sera fermé pour plusieurs mois, la faute, il faut des travaux. Les cours reprendront seulement jeudi, mais alors à distance, on ne sait pas encore ce qui se passera à la rentrée de janvier. Le président algérien va-t-il intervenir dans l'affaire du journaliste français Christophe Glaize, à nouveau condamné, c'était au début du mois, à 7 ans de prison pour ses contacts avec des personnes liées à un mouvement séparatiste dans le cadre d'un reportage sur un club de foot. Alfred Orange, pour RMC, sa mère vient d'adresser une demande de grâce au président algérien.
Oui, dans cette lettre, Sylvie Godard fait appel, je cite, à la haute bienveillance du président algérien pour libérer son fils. La mère de Christophe Glaize écrit d'abord que la condamnation en appel du journaliste à 7 ans de prison est un choc immense pour elle et sa famille. Cette sentence, poursuit-elle, nous est incompréhensible au regard des faits et du parcours de mon fils. Une lettre teintée d'émotion où la maman du journaliste sportif argumente aussi sa demande. Nulle part dans ses écrits vous ne trouverez trace d'un quelconque propos hostile à l'Algérie et à son peuple. Un courrier qui intervient au lendemain de la demande des avocats de Christophe Glaize de former un pourvoi en cassation contre sa condamnation dans le but d'obtenir un nouveau procès.
Voilà pour cette demande de grâce avec Alfred Orange ce matin pour RMC.
8h05 sur RMC, c'est un jour de deuil qui a commencé en Australie.
Oui, au lendemain de l'attaque terroriste et antisémite qui a fait 15 morts, dont un Français de 27 ans. C'était hier matin sur une plage mondialement connue de Sydney, perpétrée par un père et son fils, père abattu par la police, fils qui avait déjà fait l'objet d'une enquête pour ses liens avec Daesh. C'est ce que disent les médias australiens ce matin. Attaque commise le jour de la fête juive de Hanouka. Sécurité immédiatement renforcée près des lieux religieux en France, d'ailleurs, Julie Brault.
Oui, seulement quelques heures après l'attaque sanglante contre la communauté juive à Sydney, Laurent Nunez a demandé hier à tous les préfets de France de renforcer la présence des forces de l'ordre autour des lieux de culte juifs. Dans ce télégramme adressé également aux responsables de la police et de la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur souligne, je cite, la prégnance de la menace terroriste et des tensions au plan international qui exigent, dit-il, le maintien d'une extrême vigilance. Une consigne qui intervient deux jours après l'envoi d'un premier télégramme dans lequel Laurent Nunez appelait déjà à une surveillance accrue autour des célébrations juives de Hanouka qui se déroulent jusqu'au 22 décembre, avant de lister les nombreuses attaques qui ont visé plusieurs lieux de culte cette année, notamment la dégradation de 3 synagogues et du mémorial de la Shoah à Paris.
Sécurité renforcée aussi près des lieux de culte chrétiens à 10 jours maintenant de Noël. Tiens, à l'approche des fêtes, on saura ce matin si les salariés du Louvre se lancent ou pas dans une grève reconductible juste avant les vacances pour dénoncer la vétusté du musée et demander plus de moyens. Ils doivent se réunir en assemblée générale à 9h donc ce matin. Il y a un grand changement depuis ce week-end dans les trains. Certains de vous l'ont peut-être déjà remarqué, la numérotation des places a été modifiée dans les TGV Inouï. Des centaines d'agents SNCF ont changé pas moins de 123 000 étiquettes durant le week-end. Alors désormais, si on monte dans un train, Rachel Sadodine, eh bien on aura un numéro de place à 3 chiffres.
Oui, si vous avez déjà pris un train Ouigo, les trains low cost, eh bien en fait ce sera exactement la même chose. Concrètement, si vous êtes à la place 332, il faudra monter dans la voiture 3 et choisir le siège numéro 32. Le but, selon la SNCF, c'est d'éviter aux voyageurs de se tromper de voiture. Le fameux « Excusez-moi monsieur, vous êtes à ma place ?» Plus de ça, et puis il y aura aussi un autre avantage, vous pourrez directement savoir si votre place est située en haut ou en bas du train. Toutes celles numérotées au-dessus de 40 sont à l'étage. Mais dans les trains à double rame, là, ça risque de coincer un petit peu. Le numéro 123, il pourra aussi bien désigner la place numéro 23, située en voiture 1, ou bien alors en voiture 11. Pas de panique.
Mais oui, ça m'inquiète beaucoup, je suis d'accord. J'ai la même réaction qu'Emmanuel.
Ils sont pas capables de mettre 4 chiffres.
Là, je comprends plus.
Alors, c'est pas la peine de mettre 4 chiffres, puisque des fois, il y a des trains avec une seule rame, et là, ça n'aurait pas été nécessaire. Mais du coup, pour régler le problème, c'est simple, il y aura quand même le numéro de voiture à l'ancienne indiqué sur les
billets. Bon, vous nous rassurez.
Mais donc, il y aura peut-être deux places 123 dans un même train. Voilà.
Non, trop angoissant.
Alors, je vous donne les trois premiers de la Ligue 1 en foot à l'issue de la 16e journée de championnat qui s'est terminée hier soir par la victoire de Marseille 1-0, c'était contre Monaco. Marseille 3e, Paris 2e, et c'est Lens qui passera les fêtes en tête, leader grâce à sa victoire 2-0 hier contre Nice.
C'était le journal de Quentin Vinet.